Qu'est-ce qu'une croyance limitante et comment s'en libérer? C'est la question que vous posez ce matin à votre invitée Isabelle Duché.
Transformer nos croyances limitantes pour une vie plus épanouie, c'est la formation proposée à Colomiers les 27 et 28 juin par le Centre de ressources sur la non-violence. Son intervenante est Sandrine Leroux. Bonjour madame.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes coach professionnel, médiateur en communication non-violente, homologué par le Conseil national des barreaux. Vous êtes aussi formatrice en culture du dialogue et en prévention et résolution de conflits en milieu professionnel. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Présence. Peut-être pour commencer, vous pourriez nous expliquer ce qu'est une croyance limitante.
Mmh. Alors d'abord, on va regarder ce qu'est une croyance.
Tout simplement.
Puis après, on ira voir cet aspect de limitante. La croyance, c'est une idée généralisée que l'on tient pour vraie sans pouvoir la prouver. Donc c'est une sorte de certitude qui s'installe dans nos vies et qui guide nos comportements.
D'accord.
Donc, en fait, le problème, c'est pas d'avoir des croyances. Le problème, c'est quand ces croyances, on les prend pour la réalité. Et notamment dans les relations interpersonnelles, où elles influencent nos comportements, nos décisions et nos choix.
Et donc, dans ce cas-là, c'est une croyance limitante.
Alors, elle devient limitante quand elle entrave nos choix, nos opportunités d'apprentissage, nos opportunités de décision, et qu'elle nous sépare. Donc, à l'opposition des croyances limitantes, on a les croyances porteuses. Par exemple, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ben, ça, c'est une croyance qui engage à se lever, à faire des activités, qui est positive. Elle peut devenir limitante, cette croyance porteuse, quand elle nous pousse de manière rigide, figée, à nous lever tôt, tous les jours.
Alors que ça ne correspond pas à notre rythme, par
exactement.
Exemple.
Alors que ce n'est pas en lien avec nos aspirations, nos besoins, nos rêves. Et du coup, c'est là où elle devient limitante.
D'accord. Est-ce que vous dites que ce sont des idées qu'on tient pour vraies? Est-ce que dans tout ce qu'on a reçu enfant, il y a des croyances limitantes?
Alors bien sûr, quand on vous dit toute votre enfance, les étrangers sont dangereux, faut se méfier des étrangers, ben ça va s'ancrer. En fonction de la manière dont nous on interprète ça, ça va s'ancrer.
Ça peut être juste dans un mécanisme de protection. À un enfant, on lui dit « tu ne parles pas à quelqu'un que tu ne connais pas ».
Par exemple, on peut aussi lui dire « les émotions, ça n'a pas lieu d'être, il ne faut pas être triste, il ne faut pas être… » Et tout ça…
Ne pas pleurer.
Il ne faut pas pleurer. Tout ça, ça va s'incrémenter tout au long de notre vie, en fait. Des croyances, on en crée tout au long de notre vie, soit par notre culture, elles sont là déjà présentes dès notre plus jeune âge, soit par l'éducation qu'on va recevoir. Soit par les messages qui vont être véhiculés par nos groupes d'appartenance. Et donc, du coup, ça, c'est... et aussi nos expériences. Je rajoute ça parce que toutes nos expériences peuvent nous amener à avoir des croyances. Imaginons que je prends la route, j'ai un accident sur une route très sinueuse. Je n'avais pas eu d'accident précédemment, mais là, j'ai un accident grave. Je vais considérer que cette route est dangereuse. Ça va faire une croyance figée. Je vais décider que je ne prends plus cette route pour ne plus avoir d'accident.
D'accord.
Et donc, ça va générer aussi, ces croyances, des comportements spécifiques qui, la majorité du temps, quand elles sont limitantes, vont nous entraver dans l'expérience de nos vies, dans la liberté qu'on a à vivre nos expériences dans l'instant présent, en fonction de la réalité.
Alors, ce qui est difficile quand même, c'est de repérer ces croyances.
C'est clair que c'est très difficile de les repérer parce qu'elles arrivent comme des vérités absolues.
Oui, c'est ce que vous disiez.
Et le moyen de repérer une croyance, c'est qu'en fait, elle va être conditionnée par des débuts de phrases. C'est « je ne suis pas capable »,« je suis toujours en retard », par exemple. « Je suis toujours en retard » peut rentrer comme une croyance, parce que je ne suis pas toujours en retard. C'est le fait de figer et de rendre quelque chose d'absolu. Ça peut être aussi « les autres sont, je vous disais, les étrangers sont dangereux ou faut se méfier des étrangers. Il faut absolument... Je ne saurais jamais. Tout ce qui fige et qui, en fait, montre une réalité avec distorsion, puisque le toujours et le jamais n'existent pas, en fait.
Je ne suis pas capable.
Je ne suis pas capable. Beaucoup de... Ça peut être... Ah oui, ce qui est important aussi, c'est de voir que des croyances, on peut en avoir sur soi, sur les autres, et sur le monde en général, avec toutes ces thématiques que sont l'argent, l'amour, le mariage, la religion, les enfants.
Par exemple, une croyance qu'on pourrait avoir sur les enfants.
Les enfants, ça vous change votre vie, vous êtes plus libre après. Aïe. Par exemple, alors je vous l'ai dit comme ça, une autre croyance sur les enfants, alors il peut y avoir les enfants, ça épanouit les femmes. Donc vous imaginez bien que les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, si elles y croient, elles sont bloquées dans leur épanouissement puisqu'elles savent qu'elles n'ont pas d'enfants. Il peut y avoir aussi, sur la famille par exemple, une famille, des enfants heureux, c'est des enfants qui ont des frères et sœurs. Voilà, tout plein de choses qui figent. Alors que évidemment, des enfants qui sont heureux, on a le souhait d'en voir partout, et les enfants uniques ne sont pas forcément des enfants malheureux. Ouais. Ou de dire, pour avoir des enfants, il faut avoir les moyens.
Ah oui.
Vous voyez, c'est plein de choses qui vont, si on les écoute comme ça et qu'on les, on n'y croit pas, on se dit, bon, c'est absurde, c'est pas. Mais si on les croit, ben elles vont nous guider dans notre vie. Et par exemple, si c'est faut avoir les moyens pour avoir des enfants, bah vous avez des personnes, si elles croient à ça, qui vont pouvoir se dire je limite le nombre d'enfants parce que je n'ai pas les moyens.
D'accord. Oui. Ouais. Donc les repérer, c'est vraiment voir ces petites phrases en fait qui retentissent ou ces expériences qui finalement ne sont pas reproduites parce qu'il y a eu un blocage à un moment ou à un autre.
Exactement. Ce sont des expériences qui... Donc, ça se construit quand c'est par l'expérience, que ce soit un message reçu ou un événement vécu, il va y avoir une interprétation. Par exemple, je fais une présentation en public et ça ne se passe pas très bien. Je vais en déduire que je ne suis pas douée en prise de parole en public. Donc, ça, c'est une interprétation sur l'événement. Et ensuite, la croyance, elle va généraliser ça. Ça veut dire, comme je ne suis pas douée, c'est dangereux pour moi de prendre la parole en public, donc je ne dois jamais prendre la parole en public pour ne pas vivre un danger. C'est généralisé. Et du coup, à partir de cette généralisation, cette croyance, qui va devenir limitante, parce que mon comportement va tenir compte de cette idée reçue que j'ai, de l'expérience, mais qui ne va pas définir normalement toutes les autres expériences. Mmh. Et en fait, là, la croyance, elle limite mes expériences futures. Je vais tout faire pour ne pas avoir ni un job, ni une activité qui me met dans une situation de devoir prendre la parole en public.
Oui.
Et donc, ça va peut-être me priver d'un travail. Mais comme en fait, on est figé à l'intérieur, on est persuadé que ce qu'on dit est vrai, eh ben, ça va nous restreindre. C'est ça l'idée, c'est que ça entrave, ça restreint. Mmh. La croyance limitante entrave, restreint.
Oui, d'où son nom, limite.
Mon expérience, elle met de la limite.
Oui. Oui. Alors, une fois qu'on l'a repéré, évidemment, on a envie de s'en débarrasser de ces croyances. C'est comme vous dites, ça peut nous priver d'un métier, ça peut nous priver d'une activité.
D'une expérience, d'une relation.
D'une relation. Ou, comme vous dites, de fonder une famille ou d'avoir un certain nombre d'enfants parce qu'on est bloqué dans ces croyances. Comment on peut finalement en sortir?
Alors, le point, ça va déjà être d'identifier. Donc, la question de la repérer, c'est important de voir des petites phrases qu'on dit régulièrement qui sont comme des certitudes. C'est de repérer ces certitudes, déjà. Ensuite, face à une certitude, c'est de se poser la question, de questionner, est-ce que c'est vraiment vrai? Et souvent, il faut se poser la question plusieurs fois, est-ce que c'est toujours vrai? Donc, c'est-à-dire chercher une preuve de l'inverse ou une petite preuve de s'il y avait 1% de faux dans cette croyance, quelle expérience j'ai faite qui infirme à 1% cette croyance, pour ne pas faire des choses grandiloquentes qui perdraient leur efficacité. Et une fois que j'ai repéré une preuve contraire, eh bien, je vais formuler une croyance plus nuancée. L'idée, ça va être de nuancer notre croyance. Par exemple, je disais « je ne veux jamais prendre la parole en public ». Eh bien, peut-être que là, je vais prendre un nouveau slogan qui serait « je suis pas très douée, mais avec un peu plus de travail, je peux prendre la parole dans un groupe ».
Oui, parce que finalement, cette croyance de ne pas prendre la parole en public, cette croyance limitante, c'était fondée sur une mauvaise expérience, une première expérience, donc qui peut s'expliquer décevante parce que un manque d'expérience, justement. Et...
Ou un événement particulier. Ce jour-là, je ne suis pas très bien.
Oui, voilà, c'est ça.
Et donc, c'est vraiment la manière... Ça, c'est intéressant aussi de voir que la même expérience, tout le monde ne va pas réagir de la même manière.
Oui.
En fonction de la représentation qu'on a de nous-mêmes, du monde. Et donc, à un moment, peut-être une autre personne, ça va mal se passer, mais va dire, oh, bah, aujourd'hui, je n'étais pas très en forme. Et bah, ce n'est pas grave. Donc, c'est vraiment l'interprétation qu'on fait de la réalité qui va générer nos croyances. Et évidemment, j'ai confiance en moi, ça va être beaucoup plus facile d'absorber les événements négatifs que si j'ai moins confiance en moi. Mmh. Si j'ai pas été encouragée à vivre des erreurs. Et donc là, on voit bien que notre éducation va construire une autre croyance, faut pas faire d'erreur, être parfait. Ça, c'est une croyance très ancrée dans la culture. Quand on va à l'école, on note les fausses...
On note les fautes.
On ne note pas le nombre de mots justes. Vous voyez, déjà, juste ça. Et donc, dans l'éducation, bah forcément, quand on repère une faute, c'est grave. Donc, ça ne va pas soutenir l'erreur. Par contre, si on cultive l'erreur en disant « Ah, ok, tu as fait une erreur, c'est pas grave, comment la prochaine fois tu peux ?» Et bien, dans l'éducation, on va comment corriger, comment faire mieux, mais pas... Toujours bien. Comment faire mieux la prochaine fois? Ah, t'as encore fait une erreur, c'est pas grave. Et donc, on va accompagner comme ça dans l'éducation aussi nos enfants. Et donc, une fois qu'on a repéré une
croyance,
une nuance, une fois qu'on a pu faire une première nuance, eh bien, on va poser une action qui nous permet de tester ce nouveau slogan nuancé. Et donc, par exemple, si je reprends mon exemple de prise de parole en public, eh bien, on va dire, tiens, je vais faire une présentation dans l'équipe à laquelle j'appartiens, 10 personnes, et je vais faire une présentation de 10 minutes avec mes notes, et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et forcément, je vais faire l'expérience de quelque chose de différent, puisque une expérience
ne se reproduit. Oui, le contexte ne sera pas le même.
Le contexte ne sera pas le même. Moi, je me serais préparée, et puis je vais peut-être me dire, ah, mais en fait... c'était pas si mal. Et peut-être y prendre goût, sait-on jamais.
Oui, c'est ça. Et puis peut-être ne pas se mettre aussi la pression en disant, il faut que ce soit parfait.
Ça, c'est une autre croyance.
Voilà, et se dire, bon, ben voilà, ce sera comme ce sera bien parce que j'aurai bien préparé, mais avec cette souplesse aussi et cette humilité de se dire que, voilà, c'est un chemin et que...
C'est exactement ça, pardon, je vous ai coupé la parole, oui. C'est faire évoluer nos croyances limitantes, c'est vraiment assouplir nos idées reçues, assouplir nos idées figées, généralisées, pour pouvoir leur redonner à l'expérience de l'espace.
Sandrine Leroux, puisque vous intervenez aussi dans le milieu professionnel, je voudrais vous poser cette question de toutes ces phrases aussi qu'on a reçues. Vous parliez de l'éducation et puis ça peut être dans toutes les expériences sur la perfection. Sois parfait, sois fort, fais plaisir, dépêche-toi, fais des efforts. C'est des phrases qui peuvent résonner dans la tête, notamment de certains managers qui peuvent nous écouter ce matin. Comment ces croyances influent-elles leur façon de diriger?
Alors, on peut imaginer par exemple que sur le management, on peut imaginer que quelqu'un se dit, un manager se dit, l'autorité, ça se gagne par la fermeté. Si le manager a cette pensée, il va par définition, conditionner son comportement à être ferme. Et donc, il va se priver de relations conviviales avec ses collaborateurs, il va se priver d'un déjeuner, il va toujours rester dans cette croyance que l'autorité, c'est la fermeté, donc il ne faut pas ouvrir d'espace. Et donc, l'ambiance, le climat de l'équipe va être teinté de cette croyance qui est comme une paire de lunettes qu'on met, invisible, et qui conditionne nos comportements et nos manières de faire. Une autre, alors sur le management, par exemple, souvent, moi j'étais dans le middle management et il y avait beaucoup de solitude. C'est-à-dire qu'un manager, ça doit se débrouiller seul. Et donc du coup, ça...
Et de fait, pardon de vous couper, mais beaucoup de chefs d'entreprise disent qu'ils sont très seuls.
Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a des croyances qui font que je ne dois pas montrer que je ne sais pas. Je ne dois pas. Moi, en tant que manager, je me souviens avoir eu des moments où je ne savais pas et je me disais, il faut absolument que je trouve pour permettre à mes collaborateurs de me sentir légitime.
Et de croire en moi.
Et de croire en moi. Et qu'ils croient en moi aussi, parce que mon autorité s'assoit sur le professionnalisme. Sauf que le professionnalisme, ce n'est pas avoir la bonne réponse parfaite à chaque instant. C'est savoir chercher des solutions. C'est savoir dire je ne sais pas quand je ne sais pas pour être soutenu.
Oui. Et savoir trouver la personne qui est la spécialiste et lui demander son avis.
Mais sauf que ces croyances, elles se cumulent. Et donc, je dois être parfait. Je ne dois pas faire de demandes parce que si je fais des demandes, ça veut dire que je suis faillible. Oui. Et si je suis faillible, je suis plus légitime. Et si je suis plus légitime, je suis plus professionnelle. Et donc, on va avoir dans le monde professionnel ces croyances qui vont s'appliquer et qui vont exister et qui vont générer des comportements qui parfois nous font dire « je ne comprends pas le fonctionnement de cette personne ». J'aimerais relationner comme un humain à humain, mais il y a comme des barrières, vous voyez, comme des barrières à franchir qui parfois sont infranchissables parce qu'elles peuvent aussi se cumuler avec des salariés qui se disent « un bon salarié, ça contredit jamais son supérieur ». Et là, on est coincé.
On pourrait en parler des heures, c'est passionnant. Je vous remercie beaucoup, Sandrine Leroux. Je rappelle donc la formation que vous donnez, les 27 et 28 juin à Colomiers, au Centre de ressources sur la non-violence. Les inscriptions sont sur le mail nonviolence.mp@gmail.com. Et puis aussi, vous pouvez regarder toutes les ressources qui sont sur le site ressources au pluriel non-violence, le chiffre 2.fr, avec beaucoup de ressources, beaucoup d'informations sur ce sujet. Merci infiniment.
Merci Isabelle.